On s'appelle Gabriel et Safo. On a un bébé qui s'appelle Isidore. Un chien qui s'appelle Moraku. Un copain qui s'appelle Raymond. Et des poules. Une maison, un terrain et des buts. Et un tandem super chouette. Et une roulotte qui s'accroche au tandem.
On s'est rencontrés dans un bar avec les copains. Et puis on s'est rencontrés et on s'est pas lâchés et on est toujours ensemble depuis H24. On s'était retrouvés début printemps dans notre coloc, dans notre toute petite chambre sous les toits, et ça devenait trop serré et on avait besoin de bouger et de faire quelque chose. On pouvait pas juste faire quelque chose sans avoir des connaissances. Du coup, on était parti un peu dans le même délire que vous, c'est-à-dire de faire un tour des alternatives en France et de voir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Au début, c'était le stop, mais le stop, ça ne tentait pas trop. Puis, on est parti sur un vélo, mais le vélo, en fait, au départ, on avait l'idée de deux vélos l'un à côté de l'autre, en tirant une petite cabane dans laquelle on pourrait dormir. Finalement, ça s'est transformé en roulotte de la taille d'un lit. Et puis, même si au début on nous avait dit que le tandem ça le ferait pas du tout, parce que la plupart des couples se ramassent la gueule en faisant du tandem, mais nous on a quand même tenté.
C'est marrant parce que ça fait quasiment un an jour pour jour qu'on est parti là. On est le 20 mai et on est parti. On est parti du Var le 20 ou le 21 mai de l'année dernière.
Ouais. Bah, on avait envoyé un mail sur un groupe Facebook, enfin un message. Moi j'avais fait un plan de la roulotte en disant voilà, j'ai fait un plan, est-ce que vous avez des conseils ? Puis t'as un mec qui était là, ah ouais, moi je peux trop vous aider. Du coup, on est parti dans le Var, c'était pile poil à côté des parents de Gabriel. Et puis en 3 jours, on a construit les grosses bases de la roulotte.
On a récupéré quasiment tout en déchette. Puis après, avec lui, on a coupé, on a soudé, on a rifté. C'était vraiment cool. J'ai habité à 60 km de chez mes parents. On est rentré en pédalant jusqu'à chez mes parents. Et là, sur la route, on a croisé un copain à mon père, avec mon père, qui faisait une balade en moto. Et ce copain-là, il était soudeur pour l'armée et mécanicien vélo et tout. Il a regardé un petit peu la roulotte qu'on venait de finir et il nous a rajouté avec lui pendant 3-4 jours. On a mis des béquilles en alu, on a fait un peu des soudures alu partout sur le truc et tout. Ouais. Il y a eu lui qui nous a bien aidé. Puis après, il y a ma grand-mère qui nous a prêté sa machine à coudre et on a fait la housse.
Pas du tout imperméable.
Pas du tout imperméable.
Mais moi, j'arrêtais pas de dire, mais si, elle est super imperméable, regarde, on la met sous l'eau, ça tient l'eau. Mais en fait, au premier orage, on s'est rendu compte qu'elle était vraiment pas imperméable. Au niveau des coutures surtout, qu'on avait faites, parce que c'était des coutures spéciales pour que ce soit vraiment imperméable.
Et aussi, un truc qui s'est passé avant de partir en voyage, on s'est dit... En fait, à la base, on n'avait pas spécialement pensé à l'aspect financier, à l'argent, etc. Mais la conception s'est fait quasiment sans argent, qu'au fil des rencontres, au fil des échanges, et on a rencontré des personnes passionnées. Et du coup, on s'est dit, en fait, si on continue notre voyage dans cette dynamique d'être dans la rencontre, dans le spontané et du coup sans argent, peut-être qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond et différent qui va se passer que si jamais on utilise de l'argent.
Et plus humain.
Ouais, ça a plus de rencontres, quoi. Et du coup, on s'est dit, allez, on part sans argent. On avait aussi nos poules avec nous. Enfin, on avait notre coq et notre poule.
Ouais, Émile est marrant.
À la base, on avait envie de faire le tour de France et aller de communauté en communauté. La première qu'on avait en idée, c'était l'Aude. Et c'est la seule qu'on a fait au final.
Et c'est
pas quand ? C'est
à la métairie blanche. On a rencontré plein de personnes qu'on pensait pas rencontrer. Surtout des gens de tous les jours, quoi. Des gens qui ont leur petit travail, qui sortent le matin en voiture, qui sont pas forcément bien dans leur vie, qui ont fait des choix qui leur satisfont pas trop.
Des gens qui n'ont pas l'habitude d'accueillir d'autres personnes aussi.
Ouais.
Qui sont pas forcément ouverts aux autres, et c'est pas évident.
Et puis nous, on arrive avec nos sourires, nos bronzages un peu trop rouges et nos poules et notre coq qui chante.
Il y en a eu qui ont peur de nous.
Ouais, mais finalement, en fait, on s'est rendu compte que qu'ils avaient tous envie de se pouvoir partager la beauté qu'il y a en eux, quoi.
Ouais.
Qu'ils avaient tous envie de pouvoir nous montrer qu'en fait, eux aussi sont ouverts, eux aussi, ils ont l'aventure en eux, la joie de vivre.
C'est parti combien de temps ?
Un mois et demi, 2 mois.
On a pédalé 2 mois, je crois.
Ouais.
Puis après, on est resté 1 mois en Ariège. On s'est fait des cols à 700 mètres, hein,
ouais.
Avec 100 kg de la roulotte, 20 kg du tandem, 50 kg de toi et 70 de moi.
Ça et puis moi, j'ai grossi au fur et à mesure, mais bon, ça c'était après l'autre.
Ça faisait un bon petit paquet à 3.
On en a eu beaucoup des moments comme ça où on galère beaucoup.
Des moments où on a les larmes au bord de la gorge, on a envie de pleurer. Ça devient tellement dur qu'il faut que ça sorte.
Ouais.
On a eu quelques petits moments comme ça. Celui-là, on s'est pris des grosses grêles aussi.
Ah ouais, on s'est pris des énormes grêles avec le Muraco, notre petit chien.
Mais on a toujours eu des réconforts ensuite. Après la tempête, c'était la première tempête grosse qu'on s'est pris. On s'est fait accueillir. On avait un lit, on avait une douche chaude, on avait de quoi manger. Enfin, ouais. On avait demandé avant. On s'était pris la tempête, on s'était rendu compte que notre bâche n'était pas étanche. On avait dormi, on s'était pris la flotte. Et le lendemain, on s'est dit, bon, allez, à midi, on veut un lit, un bon repas, plein de légumes et une douche chaude.
On expérimentait le pouvoir de l'intention. Et puis,
à midi, qu'est-ce qui s'est passé?
On avait un lit,
un studio,
une bonne
douche.
Ouais, on avait tout un studio pour nous. On avait des gens qui étaient à 70 ans et qui étaient dans la même énergie que nous, avec le même amour qui pouvait se partager.
J'avais 70 ans, ils s'aimaient trop et ils se faisaient des balades au Mexique en sac à dos à leur âge, comme ça. Ils étaient hyper ouverts, c'était des baroudeurs. Et là, quand on est arrivé, ils allaient partir en camping-car, se balader au bord de la mer.
Ils savaient pas où ils allaient.
Ils savaient pas où ils allaient.
Et ils nous ont laissé leur studio comme ça, et puis le marché bio où on avait demandé de l'aide. Ils nous ont fait toute une cagette de légumes, qu'on avait tout ce qu'il fallait. Ça, c'était tout le temps.
Ça s'est beaucoup fait comme ça. On a beaucoup demandé au marché, au magasin bio.
On a essayé aussi de faire des échanges, de faire des dessins, de rendre service. Mais les gens, ils ont surtout envie de donner. À ce moment-là, on n'était pas dans le troc obligatoire. On a refusé l'argent qu'on nous a donné, parce qu'on voulait vraiment faire sans argent.
Tout le long de la route, on nous a proposé beaucoup d'argent, en fait. Si on avait accepté tout l'argent qu'on nous a proposé, on aurait eu 200 balles, je pense, à la fin du trajet.
Ouais.
Mais quand les gens ils venaient avec leur billet de 20 euros, on disait « Non, on préfère juste un peu à manger. » Du coup, ils revenaient avec des pâtes. Ils comprenaient pas. C'est bizarre, avec 20 euros, tu peux avoir plus qu'un paquet de pâtes. Hein. Et oui, mais c'était pas la même énergie non plus.
Non. C'est ça dont on avait besoin et c'est ça qu'on recherchait aussi. C'était quelque chose où au-delà de tes paroles, tu vas faire quelque chose qui va vraiment changer quelque chose, créer quelque chose, que ce soit pour toi ou pour la collectivité. Et là, c'était magique parce que ça fonctionnait. Et ça nous a beaucoup inspiré.
Là, vous avez fini une aventure, mais vous en avez débuté une autre.
Ouais.
Ouais.
Bon, en fait, je suis tombée enceinte dans l'Aude, à la Métairie Blanche. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la fatigue de début de grossesse. Donc Gabriel a pédalé tout seul de l'Aude à l'Ariège. Et en me tirant, moi je dormais sur la roulotte, c'était bien. Hein.
Ouais, c'était cool. On s'est fait des bons cols comme ça.
Tu t'es fait des bons cols comme ça.
Ouais, mais tu me lisais des livres pour
m'encourager. Voilà, moi j'encourageais.
En lisant des bouquins.
Et puis du coup, après, on s'est arrêté en Ariège. On avait des copains qui, eux, voulaient créer... Enfin, dans l'optique, ils voulaient créer une collectivité aussi.
Ouais.
Sauf que l'énergie n'était pas du tout la même. Et c'est un lieu ultra étrange
Bah, c'est
où.
un beau lieu, il y a beaucoup de terrain,
Ouais.
c'est chouette. Mais c'était plus une coloc où les gens se parlent pas trop et font pas des choses ensemble plutôt qu'une communauté. C'est une
Puis ils
coloc sur le
veulent
long
pas,
terme.
ils veulent pas. Tu sens qu'ils veulent pas en fait. Ils essayent et puis.
Bah après là, peut-être ça a changé
Puis
maintenant.
ils veulent pas. Et après, oui, il y a eu d'autres gens qui sont arrivés, mais en tout cas, de notre expérience, malgré le lieu magnifique, on est resté bloqué. Et là, pour le coup, on s'est retrouvé dans l'inverse, c'est-à-dire beaucoup de paroles et pas d'actes. Et c'est ultra lourd à porter, quoi. Enfin, tu te rends compte que ça avance pas. Puis nous, on voulait pas ça, quoi. Puis au bout d'un moment, on n'arrivait plus à partir. On s'est vraiment fait coller, quoi. On a pris notre poule puisque notre coq est mort à cet endroit-là, justement. Enfin, ouais, là, c'était vraiment un endroit de la loose, quoi. Et on a pris Maran, la poule, dans une cage à chat, le petit chien dans les bras, la femme enceinte, et puis on est
On est
parti
parti
en
en
stop
stop.
dans direction Dordogne. Et à partir de ce moment-là, on a vécu plusieurs mois chez les uns, chez les autres, jusqu'à janvier de cette année, quoi.
Ben quasiment 5 mois, 5 mois à droite à gauche.
Et en fait, on avait conscience que tant qu'intérieurement, on n'était pas prêt vraiment à vivre ensemble dans une maison posée, et ben on continuerait à être pas stable, quoi. On savait que c'était. Qu'on vivrait comme ça tant qu'on n'aurait pas compris quelque chose. Et du coup, on a pu s'installer ici, dans la maison de mon enfance.
On aimerait bien vivre en lien avec plein de monde autour de nous et vivre une sorte d'autonomie collective ensemble. Parce qu'être autonome tout seul, c'est trop difficile. Enfin, ça se fait, il y en a qui font ça super bien, mais ça demande un travail colossal. Alors que si on est plusieurs, pas dans la même maison, dans la même zone géographique assez proche, ben on peut s'entraider et on est ensemble et là, en ce moment, on a envie de créer une association pour fédérer plusieurs personnes, plusieurs familles, plusieurs groupes de personnes.
Mais c'est nos besoins qui sont pas que des besoins en nourriture, mais des besoins
Tous les niveaux, en
humains
fait.
aussi, à tous les niveaux. Et on essaye de s'inspirer de la fleur permaculturelle pour atteindre tous ces niveaux, justement. Et au début, en fait, en s'installant ici, on était tout seul, on savait pas trop qui habitait autour de nous, et puis ben, on a accouché. C'était d'abord l'accouchement et ensuite le
Ouais.
reste. Mais en même temps, avant d'accoucher, on avait déjà commencé nos buts. Et par votre présence, on a pu vraiment identifier quelles étaient vraiment nos envies et nos besoins. Et en fait, on a envie de. Tous nos désirs qu'on a pour nous, juste pour nous, on a envie de les partager. Et on a envie de pouvoir partager aussi ce lieu, cette maison. Je trouve que si on ne partage pas, ça ne se crée pas vraiment concrètement dans quelque chose de plus diffus, quoi. Si je garde tout pour moi, je vois pas l'intérêt de le faire, quoi.
D'ailleurs, t'as dit, on a accouché.
Oui.
Bah ouais, on a accouché, hein. C'est clair.
Bah ouais, puisque j'ai pas accouché toute seule, parce que j'ai pas fait un bébé toute seule, je l'ai pas porté toute seule. On a fait de l'autonomie pendant toute la grossesse. L'autonomie, c'est
Envoyer de l'amour au bébé, à travers le ventre et avec les mains, et sentir la présence du bébé dans le ventre
et
avant
que
qu'il
lui, il
naisse.
nous sente aussi. Et de vraiment aller à la rencontre de nous et du bébé, et de vraiment créer ce triangle avant même la naissance, quoi. Pour qu'on puisse déjà rentrer en lien avec elle avant ça.
Et ça nous a bien aidé pour l'accouchement.
Ouais. Et c'est on parce que c'était comme une danse un peu. Là pour le coup c'est moi qui dirigeais et toi tu m'as suivi.
Ouais. quand on... Parce qu'on l'a dit assez tôt, pendant la grossesse, qu'on avait l'intention d'accoucher juste tous les deux, sans personne, sans sage-femme, sans rien, sans une ambulance qui attend devant la porte, ce que des gens nous ont proposé. Mais ça dérange beaucoup, ça fait très très peur. On nous a dit toutes sortes de trucs. Puis on a eu le malheur de le dire à une collègue qui nous a suivis, qui a fait une crise. Trop dur pour elle d'entendre ça, c'était trop trop éloigné de ses croyances, et du coup ça remettait en question trop de trucs. Pour elle, c'était quasiment un suicide qu'on faisait en faisant ça, en fait. Pour elle, il y avait une chance sur deux pour qu'on meure ou pour que le bébé meure.
On l'avait croisée une fois, elle nous avait quand même inscrite à l'hôpital en disant oui, mais je vous ai quand même inscrit, hein, parce que c'est quand même dangereux ce que vous faites là. Mais on l'avait vraiment choquée, en fait, elle a failli pleurer, cette femme.
Ouais.
Parce que c'était trop dur pour elle de prendre conscience de tout ça, qu'on puisse aller être complètement à l'encontre de tout ce qu'elle avait appris. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ben, ce qu'elle dit, ce qu'elle apprend aux femmes, c'est totalement l'inverse de ce qu'on fait. C'était juste impossible. Et.
Elle nous a dit que c'était quand même dommage qu'avec toutes les possibilités aujourd'hui qu'on nous offre dans les hôpitaux, qu'on fasse un retour en arrière comme ça.
Moi, je trouvais ça drôle aussi qu'elle nous dise que c'était irresponsable par rapport aux médecins et qu'on n'était pas dans le respect face aux médecins qui nous attendaient à l'hôpital parce que ben si jamais il se passait quelque chose, on les mettait en danger eux, tu vois. Mais on ne nous dit pas ça quand tu prends ta moto et que tu vas rouler à 100 km/h sur la voiture. On te dit pas prends une ambulance derrière toi parce que on sait jamais, tu pourrais quand même avoir un accident. On te dit pas ça.
On ne dit pas
On
que t'es
te dit
égoïste parce que
juste.
t'as pas prévenu avant que t'allais partir en moto dans la possibilité où t'as un accident.
Ouais. On te dit juste de vivre et puis si jamais t'es à l'hôpital, nous on n'est pas en soi, on n'est pas contre l'hôpital. C'est juste que là, on crée de l'accouchement une maladie, quoi.
Ouais, franchement, on n'a pas sa place dans un hôpital. Mais l'hôpital a aussi des bonnes choses. Mais pas pour ce qui est lié à l'accouchement. Enfin, ça dépend des accouchements aussi. Ben, nous, on s'est quand même renseigné, on a beaucoup appris, on a lu, on a rencontré des personnes qui avaient accouché aussi tout seul, ensemble. Finalement, quand ça s'est fait, on était vraiment serein, en confiance, quoi. On a réussi à être un petit peu imperméable aux peurs au fur et à mesure. Au début, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se prenait une réflexion, c'était très dur. On était un peu dans la réaction. Moi, j'avais du mal à rester serein, à rester calme, ça m'énervait un peu et ça me faisait presque douter parfois. Et au fur et à mesure, au bout d'un moment, plus l'accouchement approchait, plus les peurs des autres, elles glissaient sur nous, c'était pas un problème. Et après l'accouchement, on nous a dit, ah mais vous avez raison de faire ça comme ça, c'était vraiment une trop bonne idée. Tout le monde a cru qu'on avait fait ça par rapport au confinement et au coronavirus parce que Isidore est née la veille du confinement. Du coup, tout le monde a dit, ah, mais vous avez bien fait de faire comme ça, quand vous n'êtes pas allé à l'hôpital. C'est parce qu'il y avait le virus que vous avez fait ça. On a dit, ah non, non, c'était pas virus, pas virus, ça aurait été pareil.
Pendant tout l'accouchement, ou même si à la fin c'était beaucoup plus évident d'entendre la peur des gens, je les ai quand même trouvés très très égoïstes ou égocentriques, je ne sais plus lequel des deux. Mais je trouvais que c'était vraiment irresponsable de la part des gens de nous envoyer des avalanches de peur et de méchanceté, de nous dire qu'on était irresponsable, qu'on était vraiment inconscient et qu'on savait pas ce qu'on faisait, qu'on est des petits jeunes qui savent pas c'est quoi l'accouchement. Et pour moi, c'était lourd, quoi, de porter tout ça. Je trouve qu'on devrait laisser les femmes bien plus tranquilles, quoi. Même avec toutes leurs échographies obligatoires, c'est qu'ils ne sont pas obligatoires, hein, mais on te met une telle pression que t'es irresponsable si jamais ton enfant, il est malade ou il a des malformations qui te rendent handicapé. On vit vraiment dans une société qui te dit que ben ton bébé, s'il est mal formé ou s'il a des problèmes, on peut penser quand même à l'avortement, hein, même à 5 mois, quoi, parce que bon, on va pas garder ça, quoi. Mais je trouve ça beau. Tout ce qu'on crée autour de l'accouchement.
Pendant tout l'accouchement, il y a une mésange qui a toqué à la fenêtre. L'accouchement, il a duré 12 heures. Il a commencé vers 4 heures du matin. Et dès qu'il a commencé à faire jour, il y a une mésange qui est venue, qui volait sur place pour voir devant la fenêtre, pour voir ce qui se passait dans le salon. Puis qui est retombée, qui revolait sur place. On était sur place devant la fenêtre du salon pendant des heures. Pendant des heures, elle était là, derrière la fenêtre, à toquer, à regarder, à observer. Elle avait très envie de rentrer. C'était vraiment... Et mes anges étaient là, quoi.
Vous étiez protégés.
Ah bah là, franchement, on s'est dit, bon bah... Tranquille.
Par vos anges.
Ouais. Mais du coup, l'accouchement... ouais, on a... Malgré tout ce qu'on a pu nous dire, on était sûrs de nous. On a lu le livre « Accoucher par soi-même » qui nous a réconfortés... dans notre choix et qui mettait aussi le doigt sur toutes les atrocités qui se passent à l'hôpital. En plus, on avait vu le film d'Ovidie qui s'appelle
Tu enfanteras dans la douleur.
Ouais, où t'as des témoignages de femmes qui ont accouché à Soyo ou Girac, je sais plus lequel des deux, mais où tu dis ouais, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Enfin, déjà que c'est impressionnant, l'accouchement, que c'est une expérience incroyable. Alors, en plus, tu te payes des fardeaux comme ça. Non, merci. Hein. On s'est fait une cabane dans notre salon avec le lit près du poêle. Puis on a mis les toilettes. Heureusement, c'était des toilettes sèches. C'est pratique, hein. Et on a pu installer ça. Puis c'était tranquille. Et puis, ma deuxième phase, c'est la phase de non-contrôle. Où j'ai absolument pas fait ce que j'avais appris. J'ai juste crié, j'ai chanté, j'ai ouais, c'était, les contractions étaient de plus en plus là. Et le fait de crier, de vocaliser, ben j'avais mal en fait. J'avais mal et c'était douloureux et c'était pas drôle. Et puis à un moment, je m'assois et je me dis, mais. Je vais pas du tout pouvoir continuer cet accouchement comme ça. Je vais être crevée, en fait. C'est impossible de tenir ça comme ça. Du coup, je me rappelle ce que j'ai appris avec l'autonomie où il y avait les mains de Maïté qui se posaient là. Et en fait, Maïté, pour me préparer à la soi-disant douleur, elle m'avait pincé très très fort entre les jambes. Et moi, c'est pile poil là où j'ai senti les contractions. C'était au niveau des cuisses, quoi. J'ai senti tout dans les cuisses. Et du coup, c'était super pratique, puisque c'est là où elle m'avait pensé. Du coup, ben, ok, je visualisais les mains de Maïté et je me disais, ok, c'est bon, en fait. Et du coup, je refaisais ce que j'avais pratiqué avec elle en autonomie et plus de douleur. Et après, j'avais lu un livre aussi qui s'appelle Le souffle de Frédéric Le Boyer. Ce que ma mère m'avait apporté juste quelques jours avant, et où tu avais une femme qui expliquait le souffle, comment il pouvait être accompagné, enfin, comment il pouvait accompagner les contractions. Et du coup, j'ai mélangé les deux, autonomie et souffle, et je suis devenue complètement silencieuse. Et chaque contraction, je l'accueillais, je savais l'accueillir, et c'était vraiment chouette, quoi. C'était vraiment beau. Et Gabriel a cru que c'était une pause. Mais c'était tout aussi intense. Mais juste que l'intensité était différente, en fait. Et je me sentais forte. Hein. C'était vraiment beau. Et je la sentais vraiment. Là, je pouvais vraiment l'accompagner, Isidore. Être pleinement là pour elle. Et l'écouter, et l'accueillir, et m'ouvrir. Et puis après, j'ai eu ma quatrième phase. Où je suis rentrée en transe, où là j'avais plus de questions de souffle ou de quoi que ce soit, ou juste j'essayais de me mettre dans la position où qui irait mieux, et puis mais j'ai quand même, ouais, c'était, je suis extase, je sais pas comment dire les mots. À ce moment-là, j'ai eu des visions où j'ai vu des oiseaux tout blancs partout voler autour de moi. Des espèces de grandes corneilles avec des grandes langues qui étaient là pleines de lumière. Et c'était ultra intense. Et puis j'étais là, Gabriel, alors il y a quelque chose qui sort. Et puis oui, ça sort, mais c'était pas du tout le bébé. Et puis lui, il a su être tellement calme et serein. Et t'as tellement pu être mon pilier, quoi. C'était vraiment chouette de pas avoir une espèce de tafiole qui crie dans tous les sens. Bah, c'était chouette, hein. J'ai vraiment, en fait, il y a certaines femmes qui parlent de ça, du fait de sortir de soi et d'avoir un moment où tu te souviens plus vraiment. Et moi, j'ai vraiment eu la sensation que ben mon corps, il savait, il était là, il faisait, mais moi j'étais ailleurs, quoi. Et je sais ce qui s'est passé, c'est comme si je m'étais vue de l'extérieur, mais moi, j'ai tout ça, mon mental, il y avait mais zéro, quoi, zéro. Et aujourd'hui encore, je peux pas expliquer vraiment, genre je réalise pas ce qui s'est passé avec ma tête, parce que ma tête était pas là. Et je me suis accrochée au trapèze, je me suis posée sur le ballon, et puis là, elle est sortie, et c'était... étrange. C'était ça, ça sortait, quoi. Et ça, je trouve que c'est fort de pouvoir vivre ça tous les trois, parce que du coup on peut vraiment vivre tous les trois, hein. Et c'est un triangle ultra fort, quoi.
Moi, j'étais là, j'étais autour, j'ai essayé d'être là présent tout le long de l'accouchement. Et à un moment j'ai eu une peur qui montait comme ça. J'ai observé sa forêt, je sais pas, j'ai eu un moment de doute, de peur. Je suis sorti de la cabane, je suis allé prendre 3 gouttes de rescue. Puis je suis rentré dans la cabane, je me suis reposé un petit peu, enfin je me suis... j'ai essayé de me mettre présent pleinement avec sa forêt. Et en fait, il y avait rien à faire à part être présent, quoi. Et on peut pas faire grand chose. On est juste là, on est autour, on observe ce qui se passe. S'il y a besoin d'aide pour se déplacer, pour boire de l'eau, parce que j'en ai là, mais enfin j'étais là. Mais l'idée c'était d'être présent et sans peur, être solide aussi, enfin se sentir stable à l'intérieur. Ça permet de se rappeler qu'est-ce que c'est vraiment concrètement un accouchement. C'est juste faire venir, enfin ouvrir une porte pour laisser passer un nouvel être vivant sur Terre, quoi. C'est
y a rien juste de
laisser passer. Et en fait. On a oublié à quel point c'est quelque chose de quotidien depuis des milliers d'années, c'est fondamental et c'est ce qui nous permet d'être vivants aujourd'hui, et c'est facile. Enfin, c'est... Je sais pas si c'est facile, c'est simple plutôt. C'est simple, il n'y a pas besoin d'avoir toute une technologie autour qui contrôle ça, quoi. Et pas besoin d'avoir tout un truc... C'est dommage d'avoir aligné la femme à son propre accouchement, de mettre ça entre les mains de gens qui savent mieux, qui savent faire... qui connaissent la technique, qui connaissent la science qui permet de scientifiquement faire sortir un bébé d'un corps, alors que juste en faisant confiance à la maman, au bébé, au papa et à la vie, ben, t'as fait un bébé. Juste moi, en tant que papa, je me suis senti vraiment très 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 fort papa à ce moment-là. Une fois que le bébé était sorti, j'avais une espèce de sensation en moi, genre, oh, je suis vraiment un papa. Je pense que le rapport au bébé, le rapport que j'ai à Isidore, il aurait peut-être, enfin j'en sais rien, hein, mais j'ai l'impression qu'il aurait pas été le même si j'avais pas été là, si j'avais pas pu être présent pendant l'accouchement, si j'avais pas pu être pleinement auprès de Sappho et auprès d'Isidore à ce moment-là. Si j'avais vu un bébé sortir d'une salle de l'hôpital au bout de quelques heures de travail, avoir entendu des bruits, des cris de Sappho à travers une porte et voir un bébé arriver comme ça de nulle part, je crois pas que j'aurais eu le même rapport à mon bébé. Ouais. J'en sais rien, hein. Je le sens comme ça.
On nous éloigne tellement de nous-mêmes, mais que pas que pour l'accouchement. Ça passe par l'école, ça passe par d'autres biais, quoi. Mais que, en fait, si on arrive vraiment à être proche de nous-mêmes et en voyant les choses simples, sans parler d'ésotérisme, tout de suite, juste concrètement, qu'est-ce qui se passe là? Ben, on est un corps et on vit et c'est tout, quoi. Et on apprend et on grandit et puis on meurt et on vit. Et en fait, il n'y a pas besoin que, quand on ne le ressent pas, il n'y a pas besoin d'être aidé, d'être... qu'on vienne avec des machines nous mesurer, nous dire à quelle ouverture on est. Pas besoin que des mains viennent dans notre vagin pour nous dire comment ça marche. On le sent.
Mais après, quand on est justement, quand on est né au fin 20e siècle, qu'on a été abreuvé depuis notre naissance d'images en rapport à l'accouchement, on voit des personnes qui souffrent, qui hurlent, où on voit qu'un accouchement, ça se passe au milieu de médecins, ça se passe à l'hôpital, que c'est pas facile, qu'il y a souvent des morts, qu'il y a des problèmes. Et ben, c'est une image qui est un peu ancrée en nous, et c'est des croyances qui sont ancrées en nous. Et pour pouvoir vivre un accouchement comme ça pleinement, sereinement, c'est très important, je pense, de se séparer de ces croyances qui nous appartiennent pas, mais qui ont été implantées en nous avec la, je sais pas, avec la pop culture, avec les croyances, avec les témoignages, avec tout ce qu'on peut voir à la télé, dans les films, aux infos, tout ça. En se séparant de toutes ces croyances-là qui ont été implantées en nous au fur et à mesure des années, ben, je pense qu'on peut...
Et puis accepter aussi qu'on ne vit pas forcément dans une réalité, que ce qu'on apprend, c'est pas forcément la réalité concrète. Et moi, j'aime beaucoup observer la nature, observer les animaux, pour voir concrètement c'est quoi ce qui est réel, quoi. Comment ça marche la vie. Quand tu regardes les saisons et que tu vois que ben, les arbres, ils ont une saison, ils ont l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et qu'au printemps, ben, ils naissent, puis en été, ils sont en pleine effervescence. En automne, ils se préparent, ils laissent tomber leurs feuilles, ils lâchent tout ce dont ils n'ont plus besoin, et puis en hiver, ils meurent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, au début de l'automne, c'est là qu'on se commence à se mettre à fond, à travailler, et après, on s'étonne qu'on soit malade, qu'on soit décalé, qu'on soit à l'inverse de plein de choses qui semblent pour moi essentielles. Et je pense que si on faisait ça pour tout, qu'on regarde, ok, c'est quoi ma vraie réalité, c'est quoi, qu'est-ce qui me fait vivre en fait, qu'est-ce qui est vraiment moi, et qu'est-ce qui m'appartient, et qu'est-ce qui a été créé en moi, c'est quoi mes croyances, d'où elles viennent. Il peut se passer beaucoup de choses, juste de simples croyances jusqu'aux actes, à se faire du mal à notre corps, à se faire du mal à notre esprit, aux autres aussi. Mais ça demande du travail, quoi. Et puis ça demande. Comment on appelle ça? De l'audace. Parce que c'est pas évident de sortir de ça avec le monde qui nous entoure.
Ouais. Et l'idéal du connu.
Ouais.
Et du conditionnement.
Ouais.
Vous avez quel âge?
On a 21 et 24. Ouais.
On essaie de se ramener à ça, même pour tous les autres aspects de notre vie, quoi. Genre là, les voisins ont beaucoup de mal avec le fait qu'on fauche notre foin, ouais. Alors qu'on pourrait filer un coup de tondeuse, ça irait beaucoup plus vite, ce serait beaucoup plus facile,
ouais.
Mais pas plus simple, quoi.
Ouais,
faire une faux, c'est tellement moins compliqué que faire une tondeuse,
ouais.
Ça demande tellement moins de trucs sables, d'énergie fossile, de plastique, de métal. Et puis ça dure tellement plus longtemps. Et ça fait du bien encore de toucher. C'est simple, mais c'est pas plus facile. T'as testé, hein. C'est pas plus facile, mais c'est plus simple. Et pour tous les autres aspects, on a envie de se rapprocher de choses qui sont beaucoup plus en cohérence, qui sont moins éloignées de ce qui nous entoure, sans artifice, quoi. Plus simple. Juste plus simple.
Yes.
Mais ça veut pas dire plus facile. La facilité, je sais pas ce que c'est.
Je dis, on a l'habitude de conclure nos interviews, même si c'est la deuxième, par demander à nos hôtes.
Une citation,
voilà, une citation qui peut vous inspirer, ou que vous avez envie de partager, qui vous guide. Enfin, voilà, peut-être une citation de vous. Une phrase de vous, ce que vous voulez. Voilà le dernier mot que vaut la fin.
Ben, moi j'ai ma phrase magique.
Ton mantra.
Mon mantra.
Vas-y, balance.
Ma phrase magique, c'est je veux me libérer de tout ce qui m'empêche de vivre dans la plus belle harmonie pour m'accomplir et être pleinement heureuse.
J'ai une petite citation que j'ai lue il y a pas longtemps dans un livre et en ce moment elle me motive pour tout, pour le jardin, pour la création d'une association, pour plein de trucs. C'est mieux vaut une goutte régulièrement qu'un seau d'eau de temps en temps. Je trouve ça pas.
Ouais. Ouais. Cool. Yeah. Et ben.
Merci.
Ouais.
Pour ce moment. Merci pour votre accueil.
La la la.